Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Sixième loi, la loi de la solide fondation. Notez que la confiance est la fondation du leadership. La confiance entre le leader, bien sûr, et les gens qui le suivent, ses suiveurs. La confiance est la fondation du leadership. Et là, bien sûr, on va parler de la crédibilité du leader. Ça, c'est quelque chose qui va se voir dans le temps et qui n'est pas facile à gérer en tant que leader. La crédibilité du leadership. Et la crédibilité du leadership, donc d'un leader, pardon, la crédibilité d'un leader se voit dans ses succès, mais aussi ses échecs. Donc la crédibilité d'un leader se voit dans l'historique de ses succès et de ses échecs. En fait, c'est comme un compte en banque. La crédibilité, c'est comme un compte en banque. Tu vas créditer ton compte de crédibilité à partir du moment où tu vas réussir quelque chose. Les gens vont voir, ils vont dire « Waouh, c'est bien, vraiment le pasteur a fait ça » ou « Le patron a fait ça », etc., etc. Et les gens vont prendre confiance. Par contre, à chaque fois que tu vas faire une erreur ou une gaffe, et rappelez-vous que les leaders font tous des erreurs et ils gaffent tous. Le leader qui dit « j'ai jamais péché de ma vie hein, », j'aimerais bien le rencontrer. J'en connais qu'un seul, c'est Jésus. C'est clair. Faire des erreurs, c'est pareil. Jésus n'a jamais fait d'erreur, mais nous faisons des erreurs. Et je vous rappelle que ce n'est pas... Le problème n'est pas de faire une erreur ou même de pécher. C'est de... Comment tu vas gérer ton erreur ou ton péché? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que ça va faire transpirer ton caractère. La façon dont tu vas gérer ton erreur ou ton péché. C'est ça qui fait transpirer qui tu es réellement. Si tu tombes, c'est qu'il y a des raisons, c'est que tu as un problème de caractère. Quand nous faisons des erreurs, c'est que nous avons un problème de maturité. On ne sait pas comment faire, donc on anticipe mal quelque chose et on se plante. Quand on pêche, on a un problème de caractère. Il y a un trou dans notre caractère à ce moment-là. Il y a une faille qui a permis à ce que ton corps se mette dans le péché. Où le diable a pu avoir une ouverture quelque part. Et tu t'es laissé avoir. Mais un leader va avoir une crédibilité et il a plutôt intérêt à être extrêmement créditeur, à avoir un sol très créditeur s'il veut que les gens aient confiance en lui. Si tu es débiteur dans ta crédibilité, tu auras de sérieux problèmes. Les gens ne te feront plus confiance. Tu perdras de plus en plus de personnes. Je veux dire une chose, c'est bien d'être dans le succès, mais gérer le succès est quelque chose de difficile. Gérer son succès, c'est difficile. Tu peux être dans les hauteurs et d'un seul coup, tu peux voir Dieu te propulser dans les hauteurs. Mais tu dois avoir une crainte gigantesque de te dire, Seigneur, si je fais quelque chose qui te déplaît, ça risque de coûter à ton nom parce que les gens m'écoutent en masse. Ah. Vous savez, quand quelqu'un fait une gaffe, qu'il est très peu connu, bon, si tu es connu de trois personnes vont parler sur toi. Quand tu es un personnage public et que tu fais une gaffe ou que tu pêches, tout le monde le raconte. Et des millions de gens racontent ça. Et dit, ah, tu vois bien, je vous l'avais dit, celui-ci ou celui-là, ah, je vous avais dit de ne pas lui faire confiance, ah, je vous avais dit de ne pas acheter ses livres, vous voyez bien maintenant, et plaf, et tu te retrouves. Ou des gens, des fois, des pasteurs qui marchaient très bien, qui ont des belles églises, et qui aujourd'hui se retrouvent avec 200-300 personnes, parce qu'ils ont perdu en crédibilité. Vous savez, ça fait des fois un peu peur en tant que leader, hein, Roland. Des fois, ça... Des fois, on se dit, oh, si je gaffe, si je fais une erreur, ou si je tombe, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas facile à gérer. C'est très difficile à gérer. Très, très difficile à gérer. Notez que pour construire une relation de confiance, vous devez développer trois qualités. Vous devez développer trois qualités pour construire une relation de confiance. Numéro un, la compétence. Numéro deux, la connexion. Donc, pour créer une relation de confiance, en tant que leader, vous devez développer trois qualités. Compétence, connexion et caractère. Compétence, connexion et caractère. Vous savez, les gens se souviendront très souvent d'une erreur que vous avez faite ou d'un péché que vous avez commis. Vous pouvez avoir béni des gens pendant 10 ans et gaffé une fois. Les gens parleront beaucoup plus de votre gaffe que de tout ce que vous avez fait pour eux. Des gens, des fois, en qui vous investissez des trucs incroyables, ils sont devenus certaines personnes et connaissent un certain succès parce que vous les avez aidés le jour où ils avaient vraiment besoin. Et ils vous diront merci, merci. Et un jour, vous faites une erreur ou une gaffe. Vous verrez tout de suite le cœur de la personne que vous avez formée. Ça peut être quelqu'un qui vous débine devant tout le monde, qui dit « Oui, celui-ci, c'est vrai, il m'avait formé, mais vous voyez bien, etc. » Et d'un seul coup, il vous donne une mauvaise réputation. Les gens se souviennent beaucoup plus de vos erreurs que ce que vous avez fait pour eux. C'est l'ingratitude, ce qu'on appelle. Vous savez, parfois, en tant que leader, il y a des choses qui nous font mal. C'est quand le peuple de Dieu, des fois, parle sur nous. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Notez qu'un leader ne peut pas garder de l'influence si les gens n'ont pas confiance en lui. Un leader ne peut pas garder de l'influence si les gens n'ont pas confiance en lui. Et je vous dis une chose, les gens ne vous feront pas confiance parce que vous vous appelez pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, ou tout ce que vous voulez d'autre. C'est pas votre titre qui amènera la confiance. C'est votre crédibilité. Le titre n'a rien à voir avec la confiance. Ou les gens vous feront une fausse confiance. Ou alors ils cherchent quelque chose de vous. Mais c'est ta crédibilité. Même si tu es patron d'une entreprise, tu dois avoir une crédibilité. Parce que si tu fais sauter l'entreprise, tout le monde va être au chômage. Et des fois, les gens acceptent de peut-être payer moins pour payer le prix pour que l'entreprise aille plus haut. Mais si tu perds ta crédibilité, que tu fais n'importe quoi, fais attention. Premier grand principe, la confiance d'un leader est fondée sur son caractère et sa crédibilité. La confiance d'un leader, premier grand principe sur cette loi, la confiance d'un leader est fondée sur son caractère et sa crédibilité. Et là, vous lirez l'histoire d'un homme qui s'appelle Samson, Juges chapitre 13 à Juges chapitre 16. La confiance d'un leader est fondée sur son caractère et sa crédibilité. Juges chapitre 13 à 16, vous lirez toute cette histoire qui est très intéressante. L'histoire de Samson est une histoire dramatique de leadership. C'était un homme qui avait une destinée avant même qu'il soit né. Imaginez-vous. Lisez ça dans la Bible. Avant même qu'il soit né, Dieu avait mis une destinée sur cet homme. Il va naître, il va grandir, Dieu va lui montrer sa destinée. Être un homme qui va écarter les ennemis du territoire d'Israël. Samson était appelé divinement, d'ordonnance divine. Il était oint par l'Esprit de Dieu. Mais il a gâché sa destinée entièrement. Pourquoi est-ce que Samson a gâché sa destinée? Parce que c'était un homme qui n'était pas crédible. C'était un homme qui avait un caractère absolument affreux. Il n'a jamais travaillé sur son caractère. Il ne vivait que sur son don. Ne construisez jamais un ministère sur un don. Mais construisez sur le caractère de Christ. Ne construis jamais un ministère sur un don. Même si Dieu t'a utilisé dans la guérison, ne pense pas que parce que tu guéris les malades, Dieu t'approuvera tout ce que tu fais. Ou parce que tu parles des choses, tu enseignes des choses et les gens boivent ton enseignement et sont là en train de courir derrière toi, Fais attention à ça. Ne construis pas sur ton don, construis sur le caractère de Christ. Et je vous ai dit que le caractère, c'est ce qu'il y a de plus dur à maîtriser. La parole de Dieu, tu l'apprends avec tous les outils que nous avons au niveau de l'enseignement et de la prédication. Que ce soit en direct, que ce soit d'une façon indirecte, par les livres, les CD, les DVD, l'Internet, etc. On a plein de choses aujourd'hui pour apprendre la parole. L'onction, c'est des temps que tu passes dans sa présence et Dieu te oint. Et ce n'est pas de ta faute, c'est un don. Mais le caractère, ça doit être forgé dans ta vie. Samson a été un naufragé au niveau de sa destinée, comme Saül d'ailleurs. C'est un naufragé cet homme. Il a fait complètement naufrage. Un homme qui avait une belle destinée divine, qui était juge en Israël pendant 20 ans, ça a été un naufragé. Il s'est même suicidé. Quelle triste destinée, qui n'était pas une destinée divine. C'est vraiment dommage. Cet homme était caractérisé par des hauts et des bas au niveau de son caractère, inconsistant. Et il a détruit le plan de Dieu pour sa vie, imaginez-vous. Vous voyez que vous pouvez détruire le plan de Dieu pour votre vie ? Ah oui. Il y a trop de gens qui disent « Ah, le Seigneur ne permettra pas ça ». Je suis désolé. Rappelle-toi que tu n'es plus propriétaire de ta vie, parce que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu es gestionnaire de ta vie. Et tu es responsable de la gestion de ta vie. Si tu n'es pas capable de gérer ta vie correctement, ton appel non plus, tu vas échouer. Dieu a appelé Samson, il l'a oint. Mais Samson avait des problèmes de colère. C'est un homme rempli de convoitise. C'est un homme émotionnel, impulsif. Et surtout, c'était un homme qui avait des travers sexuels aigus. Il avait des travers sexuels aigus, cet homme-là. Et il n'était pas frustré parce que sa femme ne voulait pas de lui, mais il voulait plein de femmes. Et il aurait été, entre guillemets, excusable si sa femme l'avait rejeté sur le plan de la sexualité. Mais là, il allait voir et il s'est fait séduire par Dalila. Ce qui a vaincu Samson, c'est sa convoitise sexuelle, son appétit sexuel déviant. Et il s'est retrouvé par terre, beaucoup plus vite qu'il ne l'a pensé, parce que cette femme l'a séduit complètement. Et qu'est-ce qui s'est produit après ? Il lui a livré son secret dans sa faiblesse. Et il s'est retrouvé comment ? Par terre. Il s'est retrouvé aux mains de ses ennemis, et quand ses cheveux ont recommencé à pousser, il était là, prisonnier, on lui avait crevé les yeux, et il a pris les colonnes de la maison où les Philistins faisaient la fête pour célébrer la victoire, parce qu'ils avaient capturé Samson. Il a poussé les colonnes, 300 Philistins sont morts, mais lui aussi est mort. Quel drame. C'était un homme impulsif, c'était un homme qui avait vraiment des très gros travers de caractère. C'était un homme imprévisible. Il y a quelques années, il y a eu des statistiques faites aux États-Unis. Ils disaient qu'un serviteur de Dieu sur 10 qui était entré dans le ministère était encore dans le ministère à l'âge de 65 ans. Un serviteur de Dieu sur 10 qui était entré dans le ministère en tant que jeune ministère à l'époque était encore dans le ministère à l'âge de 65 ans. Ça en dit long. Ça veut dire que 9 sur 10 qui avaient commencé jeunes dans le ministère à servir Dieu ont abandonné le ministère. Et la plupart, c'est pour des problèmes personnels. La plupart, c'est pour des problèmes personnels. Commencer dans une vision est une chose. Commencer en tant que leader, c'est une chose. Bien terminer sa course, c'en est une autre. Notre marathon, rappelez-vous que la vision, c'est comme un marathon, ce n'est pas un sprint. Nous sommes dans les Jeux Olympiques en ce moment, et je vous ai montré qu'un marathon ne se gère pas du tout comme un sprint. Du tout, du tout. Un marathon se gère avec une stratégie pour gagner. On en a déjà parlé. Commencer sa course est une chose, bien finir sa course en est une autre. Et ce n'est pas facile, parce qu'il y a plein d'embûches. Il y a des tentations, il y a des pressions, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont venir. Vous savez, nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes beaucoup plus sous pression que les chrétiens. Parce que Satan, c'est une chose, que s'il arrive à dégommer la tête, les brebis sont dispersées. Ça, c'est clair. Il faut être clair. Vous savez, je suis en train de vous dire des réalités et des vérités. Peut-être que des choses que vous n'entendez pas facilement, mais peu importe. Je préfère vous le dire, parce que je veux vous conscientiser. Nous avons besoin d'un peuple qui grandit, un peuple qui vraiment avance et veut vraiment transformer les situations et les nations où nous sommes. Ça passe par l'individu. Plus les individus sont transformés, plus les nations sont transformées. Moins les individus sont transformés, et pourtant, s'ils professent que Jésus est le Sauveur, moins leur nation sera transformée, et plus ils sont dominés par le monde et les gens du monde. Et ça, c'est inacceptable. Dieu m'a clairement parlé à propos de l'influence du royaume de Dieu dans nos nations. Et là, il faut vraiment faire attention, parce qu'il y a eu beaucoup de fausses doctrines là-dessus qui ont amené des gens vraiment à faire n'importe quoi, à prier pour le pays, mais ils ne prient pas d'une façon scripturaire. Dieu veut lever des leaders, de grands leaders, qui sont enracinés et fondés en Christ, qui sont influencés par sa présence, qui savent ce qu'ils vont faire, et dans toutes les sphères de la société. Et le business, entre autres, est quelque chose d'extrêmement important, dans lequel les chrétiens devraient se lever, non pas pour faire de l'argent, pour chercher à faire de l'argent, mais simplement pour créer des richesses afin de financer le royaume de Dieu. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que l'argent a une grande influence et un grand pouvoir. Et il faut qu'il soit dans les mains des enfants de Dieu. Mais pour ça, il faut des bons leaders, des gens qui sont incorruptibles, des gens qu'on ne peut pas planter à la moindre avenue, parce que justement, ils doivent absolument se mettre dans le compromis. Parce que le jour où tu es dans le compromis, ta conscience te reproche quelque chose. Et là, tu commences à perdre ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu. Donc l'influence du royaume de Dieu dans ta vie. Et c'est pour ça que tu commences à mettre le doigt dans un engrenage qui est extrêmement dangereux. Donc, on voit Samson qui va faire quoi ? Samson va mourir prématurément. Vous savez que les serviteurs de Dieu qui sont loin très fortement et qui s'écartent, qui vont dans le péché très sérieusement sans jamais se repentir, vont mourir prématurément. Ça s'est vu dans l'histoire de l'Église. William Branham a dévié doctrinalement et il est mort prématurément. Alors qu'au début, c'était un vrai prophète de Dieu. Un vrai prophète de Dieu. Qui a vécu des choses extraordinaires. Et ça a donné le branhamisme avec toutes les fausses doctrines qu'ils ont là. Le Dieu est un seul, c'est-à-dire une seule personne. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Des histoires sur les sept sceaux de l'Apocalypse qui sont complètement fausses, que Branham dit avoir reçues de Dieu, et c'est complètement faux, etc. Il y a plein de fausses doctrines qui ont amené cette religion, je dirais même quasiment secte du branhamisme. Je ne suis pas tendre avec ça parce que je trouve ça vraiment dommage. Parce que cet homme était un vrai serviteur de Dieu. Il y a des gens qui ont été témoins de choses les plus extraordinaires. Cet homme-là, Branham, avait un don de parole de connaissance qu'on n'a jamais retrouvé dans le corps de Christ. Cet homme-là, quand il y avait quelqu'un qui se présentait, quand il était en train d'exercer le ministère, il y a quelques vidéos sur le web de quelques exemples comme ça. Il était là, il y avait quelqu'un qui était en face de lui et il disait, voilà, vous vous appelez un tel, madame. Votre docteur s'appelle un tel. Il habite à tel endroit. Vous avez été le voir. Il vous a dit que vous aviez ça, ça et ça et ça. Le numéro de téléphone de votre docteur, à l'époque, il y avait très peu de numéros de téléphone. Ce n'est pas comme maintenant. Et ça, ça. Votre numéro à vous, c'est ça. Vous habitez telle rue, tel endroit, tel machin. Et voilà ce que le Seigneur fait maintenant. Il vous guérit. Il imposait les mains comme ça. Pouf, juste deux secondes, la personne repartait et est entièrement guérie. C'était absolument incroyable. Et ce n'était pas une fois ou deux fois dans ces réunions. C'était des dizaines et des dizaines de fois dans ces réunions. Il était en Afrique du Sud faire une croisade. Et c'était absolument incroyable ce qui s'est produit. Il y a un livre d'ailleurs qui est sorti là-dessus. Mais combien il a dévié cet homme. Tristement. Et il a dévié pour différentes raisons. William Branham a dévié. Dieu avait créé une équipe de ministères absolument incroyable. Ils étaient trois ministères à fonctionner ensemble. Branham était un homme extrêmement inéduqué. Il est né dans l'équivalent d'une case au fin fond de la brousse. C'était à peu près ça, mais aux États-Unis à l'époque. Et cet homme a vraiment vécu du surnaturel très rapidement. Son ministère est un ministère de prophète. Il n'était ni enseignant, ni autre chose. Et Dieu lui avait envoyé divinement des rendez-vous divins avec deux autres personnes. Un certain F.F. Bosworth, qui était un homme qui était assez âgé à l'époque de Branham et qui a eu un puissant ministère de guérison, entre autres au Canada. Et Bosworth était très expert au niveau de la parole de Dieu. C'était un homme qui faisait des grandes croisades quand il était un peu plus jeune, avant d'être avec Branham, et il enseignait beaucoup le peuple de Dieu, la foi, comment garder sa guérison, etc. etc. Ensuite, il y avait un autre homme que Dieu avait envoyé à Branham pour qu'il fasse vraiment une équipe divine. Son nom, c'était Gordon Lindsay. Gordon Lindsay, plus tard, est parti du ministère de Branham. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je ne sais pas pourquoi je vous raconte cette histoire, mais ce n'est pas grave, ça va parler à quelqu'un, je crois que vous en avez besoin. Et en fait, Gordon Lindsay, il était un expert en administration et organisation. C'est un homme qui organisait toutes les campagnes de Branham aux petits oignons, parce que Branham était incapable d'organiser au niveau des finances et au niveau de ses croisades en général. Et ce qui se passait, c'est qu'ils travaillaient tous les trois, et c'était vraiment une équipe divine. Lindsay organisait tout. Il organisait les finances, il organisait toutes les croisades, il enseignait aussi un peu. Bosworth, le matin, faisait des enseignements au peuple de Dieu sur la guérison, sur la foi, sur se préparer pour recevoir, etc., etc. Et le soir, Branham entrait en piste et il exerçait son ministère dans l'esprit. Et ça marchait d'une façon extraordinaire. Le problème, c'est là où ça a commencé. Branham a commencé à accuser Lindsay sur différentes choses. Et Bosworth était beaucoup plus vieux, donc c'était plus difficile. Mais Lindsay a commencé à voir que ça tournait mal. Et à ce moment-là, Gordon Lindsay est parti et il a créé une école biblique qui s'appelle Christ pour les nations, qui est à Dallas, au Texas. C'est pas Christ pour toutes les nations. Christ pour toutes les nations, c'est Rainer Bunke. Lui, ça s'appelle Christ pour les nations, à Dallas, et ça a très bien marché. Et Branham s'est retrouvé, Bosworth est parti aussi, Branham s'est retrouvé tout seul. Et quand Branham a continué son ministère, d'un seul coup, il a eu des problèmes financiers très graves. Branham était du genre, il avait un esprit de pauvreté, Branham, entre guillemets. On lui avait offert une très belle Cadillac, mais comme il avait l'habitude, il venait d'un milieu très simple, il n'a pas osé la conduire. Et il l'a gardée dans son garage. C'est pas très quinoa, ça. Et il l'a gardée tout le temps dans son garage. On lui a offert une Cadillac toute neuve, très belle voiture, de l'époque, très luxueuse. Il n'a jamais voulu la conduire. C'était un peu sa mentalité. Et Branham, donc, a continué tout seul, parce qu'il s'était fâché contre les autres, et ils étaient partis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à perdre beaucoup, beaucoup de gens. C'est-à-dire ses croisades, il n'y avait plus grand monde. Les gens n'envoyaient plus de soutien financier non plus par la poste, etc., etc. Et il a commencé à perdre beaucoup de gens. Et c'est là où il a commencé avec ses histoires de fausses révélations. Et il a commencé à dire qu'il avait eu des visions sur les sept sceaux de l'Apocalypse. Il a commencé à enseigner que tous les problèmes qu'il y avait dans le monde, c'était à cause de la femme. Je ne sais pas où il a trouvé ça. Et il a commencé à enseigner tout un tas de choses qui étaient fausses, absolument fausses. Et il a commencé à dévier. Et il y a des gens qui sont venus le voir et lui dire, tu sais, tu devrais arrêter d'enseigner parce que ce n'est pas ton ministère. Son ministère était un ministère prophétique. Vous savez, quand un ministère commence à s'écarter ou à dévier, il va mourir prématurément. Tout ça pour fermer une parenthèse qui a dû parler à certaines personnes. Dieu ne peut pas enlever une onction sur nous. La seule façon quand nous dévions pour revenir à Samson, la seule façon où l'onction partira de nous, c'est quand nous allons mourir. Samson avait complètement dévié et il avait ouvert les portes au diable à cause de son péché, à répétition et ses déviations, entre autres dans sa sexualité. La seule façon où Dieu enlève l'onction sur un homme de Dieu, c'est la mort prématurée. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Samson, c'est ce qui s'est passé pour lui. Deuxième grand principe sur cette loi. Il y a toujours des signes quand un leader n'est pas sur un terrain stable. Il y a toujours des signes quand un leader n'est pas sur un terrain stable. En fait, quand un leader se met en danger, parce qu'il dévie, soit de son appel, soit de ce que Dieu a pour lui, soit parce qu'il tombe dans des péchés à répétition, quand un leader dévie pour différentes raisons, eh bien, il y a des signes. Il y a des signes précurseurs. Il y a des signes. Vous savez, c'est comme un bateau qui coule. Un bateau qui est en train de couler, il ne coule pas en une seconde. Il y a un trou, l'eau rentre et commence à s'enfoncer. C'est la même chose pour un leader qui est en péril. Alors, quels sont ces signes? Numéro un, ces signes, c'est la non-correction, donc quelqu'un qui ne se corrige pas, la non-correction de gros problèmes de caractère. La non-correction de problèmes de caractère. Samson, il a mal commencé avec son mariage. Il s'est marié avec une Philistine. Et la loi lui interdisait. Mais il aimait cette fille et c'était une provocation. Samson était un provocateur. Il savait qu'il avait la puissance de Dieu et il pensait qu'il pouvait utiliser la puissance de Dieu comme il voulait. Très dangereux de faire ça. Très dangereux de faire ça. Donc, il avait ce problème-là. Ensuite, il a été vers les prostituées. Comme je vous le disais, il avait tellement de déviations et d'immoralité sexuelle dans sa vie que ça l'a détruit. Et vous voyez, quand un leader qui a des tels travers refuse de se corriger, il est en train de creuser la tombe de son leadership. C'est triste à dire, mais parfois, il y a des gens qui creusent leur tombe. D'habitude, c'est les autres qui creusent la tombe de quelqu'un. Quelqu'un meurt, on va l'enterrer, mais c'est quelqu'un d'autre qui va creuser la tombe. Et là, vous voyez, il y a des gens qui creusent leur propre tombe au niveau du leadership. Numéro 2, la séduction qui commence à entourer le leader. La séduction. Et la séduction, c'est quoi? La séduction, c'est que tu te convaincs, tu es convaincu que tu es dans la vérité, alors que tu es dans l'erreur. La séduction, c'est être convaincu qu'on est dans la vérité, alors qu'on est dans l'erreur. C'est ça la séduction. Et la séduction amène les gens, en fait c'est souvent des oppressions démoniaques la séduction, il faut dire ce qui est. Les gens sont de plus en plus menteurs, trompeurs et manipulateurs, parce qu'ils vivent dans le péché mais ils refusent ils se protègent, ils s'auto-protègent. Donc ils sont menteurs, trompeurs et manipulateurs. Ça a été le cas de Saül. Saül était séduit. Samson a été séduit. Et les gens qui sont séduits sont des trompeurs, sont des manipulateurs. Sont des menteurs. Et ils s'auto-protègent. David a commencé à faire ça quand il est tombé dans le péché avec Bathsheba. Il a mis à mort son mari et après il s'est protégé. Enfin, pour mettre à mort son mari, pardon, il s'est protégé. En fait, l'idée, c'est que quand Bathsheba était enceinte et qu'il l'a appris, il s'est dit, je ne veux pas être discrédité. Donc, il n'y a qu'une chose à faire, éliminer le mari. Et effacer toutes les traces. Et il a failli tomber dans ça, mais David avait un cœur du bon leader, c'est-à-dire la repentance, malgré ce qu'il avait fait. Ensuite, numéro 3, action impulsive et réfléchie. Des actions impulsives et irréfléchies, pardon. Des actions impulsives et irréfléchies. Quand on voit Samson, il était très impulsif. Il allait d'un côté et d'un seul coup, il disait « Non, maintenant on va se battre contre les Philistins. » Paf, il tuait des Philistins. Il faisait n'importe quoi. Dans son histoire, vous voyez, il fait strictement n'importe quoi. Il va mettre le feu à un champ et il va créer des histoires. Il va faire plein d'histoires, Samson. Et il y a parfois des leaders comme ça qui commencent à tomber très sérieusement et qui déclarent des choses à leur peuple. Des trucs complètement démagogiques, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'ils sont complètement insensés. Histoire de focaliser le peuple non plus sur ce qu'on est en train de dire sur le leader, mais sur d'autres choses qu'il ne réalisera d'ailleurs jamais. Ça aussi, c'est les signes d'un leader en péril. Numéro 4, la mauvaise utilisation des dons de Dieu. La mauvaise utilisation des dons de Dieu. Alors ça, c'est très pervers. Dieu lui avait donné d'écarter les Philistins d'Israël, mais ce n'était pas pour lui, ce n'était pas par lui-même. Et Samson a utilisé sa force pour faire n'importe quoi. Il n'arrêtait pas de provoquer les Philistins, mais vraiment de la mauvaise manière. Quand vous lisez ce qu'il a fait, vraiment, il tuait des gens n'importe comment. Il provoquait constamment les Philistins. Alors les Philistins revenaient, créaient des histoires en Israël. Après, lui, il se rebattait contre eux, etc., etc. Et en fait, il utilisait à mal les dons de Dieu. Il y a un prophète dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi chapitre 13, qui a fait tomber un jeune prophète, un vieux prophète. Ça vous dit rien cette histoire? Le jeune prophète inexpérimenté s'est fait avoir. Et on peut se poser beaucoup de questions sur ce texte, mais il y a tout un enseignement à faire là-dessus. Mais ce jeune prophète va voir, donne un message au roi, et Dieu lui dit, tu ne repasseras pas par le même chemin, tu ne mangeras rien en retour. Vous savez, les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas nés de nouveau. Ils avaient des règles très strictes à suivre pour éviter d'ouvrir une porte à la destruction pour leur propre vie. Et le vieux prophète savait ça et a dit, le Seigneur dit que. Il a utilisé des dons qu'il avait pour faire dévier l'autre prophète et il est tombé et il est mort. Il y a toute une histoire là-dessus, je ne peux pas faire trop de détails. À l'époque des années 1950, 45-50, il y a eu un grand réveil aux États-Unis, 50-58. 48-58 précisément. Il y a eu un très très grand réveil aux États-Unis à propos de la guérison divine. Dieu a suscité plein de prédicateurs, des évangélistes, qui faisaient plein de miracles et de guérisons. Et malheureusement, parmi ces prédicateurs-là, il y en avait qui ont marché dans le sensationnel et dans la tromperie. Et ils sont morts prématurément. Ils avaient des guérisons, mais ils essayaient de stimuler, entre guillemets, la foi des gens. Il disait à certaines personnes, tu vas te lever, c'était des mensonges, tu vas te lever et tu vas dire, ah, le Seigneur vient de me guérir à l'instant, j'avais une tumeur là et elle est complètement disparue, oh, gloire à Dieu. Et d'un seul coup, le prédicateur suivait et disait, bon, écoutez, maintenant, tous ceux qui ont tel et tel truc, je vais prier pour eux. Mais attendez, on va faire une offrande avant. Ça, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont tombés dans cette histoire d'argent. L'argent est un outil, mais il doit être dans des mains sanctifiées. L'argent est un très bel outil. Et il y a beaucoup de gens qui ont porté du discrédit sur le message de la prospérité. Et ça, je suis très fâché avec ça. Il y a un très, très beau message sur les finances et dans la parole de Dieu. Très, très beau message. Mais l'argent sans le caractère est une malédiction. Malheureusement, beaucoup se sont compromis bêtement pour quelques milliers de dollars ou quelques dizaines de milliers de dollars. Quelle stupidité. Est-ce que je peux vendre l'onction de Dieu ? C'est vraiment dommage. C'est extrêmement dommage de voir des choses comme ça. Vraiment, ça fait mal. Ensuite, numéro 5. Les faiblesses qui prennent le dessus. Les faiblesses qui prennent le dessus. Et lui, sa faiblesse, c'était quoi ? Nous l'avons vu, la sexualité. C'est un homme qui voulait être satisfait sexuellement avec plein de femmes. Alors qu'il avait une femme qui normalement le satisfaisait tranquillement. Donc il n'avait pas eu d'excuse pour aller voir d'autres femmes. Moi souvent quand il y a des problèmes d'adultère ou d'autres problèmes de ce genre-là, la première chose que je demande, je dis mais est-ce que votre femme ou votre mari vous refuse ? Parce que là par contre ça met l'autre dans la tentation. Et ça c'est normal, la Bible le dit d'ailleurs. Ne vous privez pas l'un de l'autre pour ne pas tomber dans la tentation. Et quand il y en a un ou deux qui jouent, l'un ou l'autre qui joue ça dans le couple, les résultats, c'est normal. Enfin, normal. Ça risque de créer des problèmes très sérieux. Et là, on voit que Samson, lui, n'avait pas ce problème-là. Et il se retrouve à aller voir plein de prostituées. Et il se fait rouler par une qu'il aimait trop, qui le satisfaisait trop, Dalila. Et là, il a joué, mais il a perdu. Par sa faiblesse, l'ennemi a pu prendre... a pu dominer sur lui et il s'est retrouvé par terre. Les prédicateurs doivent faire attention à beaucoup de choses et même en général dans la vie, nous devons faire attention à beaucoup de choses. À notre relation avec l'argent, ça c'est important. La relation avec l'argent, on doit toujours veiller dessus. Nous avons tous une relation avec l'argent, mais elle doit être sanctifiée cette relation. Ce n'est pas un problème d'être ultra riche, au contraire. Abraham était extrêmement riche, mais il n'avait pas ce problème-là. Ensuite, évidemment, l'orgueil. L'orgueil. Et troisième chose, bien sûr, le sexe opposé. Le comportement avec des gens d'un sexe opposé. Tous les leaders doivent faire attention avec ça. Il y a bien des gens qui sont tombés dans tous ces travers-là, les uns ou les autres, et se sont retrouvés par terre. Des leaders qui suivaient Dieu et d'autres qui ne suivaient pas Dieu d'ailleurs. Ils ont ruiné leur vie. Troisième grand principe, et on va terminer par ça. Quand un leader est en dehors de la communion avec Dieu, quand un leader est hors de communion avec Dieu et hors de relation réelle avec les gens, il n'est plus enseignable. Quand un leader est hors de communion avec Dieu et hors relation réelle avec les gens, il n'est plus enseignable. Il n'est plus enseignable. Proverbe 10:17 nous dit la chose suivante, « Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. » Et ça, c'est typique d'un leader. quand il se coupe de la communion avec Dieu. Quand tu pêches à répétition, tu te coupes de la communion avec Dieu. Quand tu te déconnectes avec les gens, tu n'écoutes plus les gens. Donc qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu risques de tomber dans ce piège de ne plus être enseignable. Ça veut dire que quand tu vas faire des erreurs, tu ne vas pas tirer des leçons de tes erreurs, mais tu vas t'enfoncer dans tes erreurs. Comme je vous l'ai dit précédemment, dans le leadership, nous faisons tous des erreurs. Il peut nous arriver aussi de tomber dans le péché. Mais tu dois gérer tes erreurs et ton péché, et les conséquences. Dieu va te pardonner. Je te rappelle que Dieu n'est pas le Dieu d'une seule chance. Il est le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la xème chance. Mais il y a une chose que tu ne peux pas racheter, c'est le temps que tu as perdu pour être restauré. Et les conséquences des dégâts que tu as faits avec tes erreurs ou avec ton péché. Ça, par contre, il faut être clair là-dessus. Tu perdras du temps. Ce temps-là est très précieux. Et si tu persévères dans des erreurs et dans le péché, tu seras détruit. Le péché te détruira. C'est la porte ouverte à l'ennemi. C'est la porte ouverte à l'ennemi, ce genre de choses. Tu n'es plus enseignable, et à ce moment-là, c'est une catastrophe. Alors, quand un leader n'est plus enseignable, qu'est-ce qu'il se passe ? Quand un leader n'est plus enseignable, numéro un, il se repose que sur ses propres forces et son intelligence. Quand un leader n'est plus enseignable, il se repose sur ses forces et sur son intelligence. Et ça, c'est très dangereux. La Bible nous dit de ne pas nous reposer sur notre intelligence, dans Proverbe 3. Et la Bible nous dit aussi, dans un des proverbes, que c'est avec de bonnes directives que tu peux faire la guerre et gagner les batailles. Et le salut est dans un grand nombre de conseillers. Donc que ce soit Samson ou Saül, c'était des gens qui ne voulaient plus écouter personne. Ils n'écoutaient plus Dieu, mais n'importe qui pouvait leur dire quoi que ce soit, ils s'en foutaient. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est un leader en péril. Il n'est plus enseignable. Il commence à disjoncter complètement. Numéro 2, ils n'apprennent rien de leurs erreurs. Ils n'apprennent rien de leurs erreurs. Et quand tu fais des erreurs, voilà l'attitude que tu dois avoir. Donc quand on fait des erreurs, donc ils n'apprennent rien de leurs erreurs, c'est la deuxième chose, on avait déjà parlé de ça en partie, mais l'attitude quand on fait des erreurs ou quand on pêche, numéro un, c'est reconnaître ses erreurs. Numéro un, c'est reconnaître ses erreurs. J'ai fait une erreur, j'ai péché, je demande pardon. Reconnaître son erreur. Ça, c'est important. Numéro 2, tirer des leçons de son erreur. Très important. Donc tu reconnais, numéro 1, ton erreur. Numéro 2, tu tires des leçons de ton erreur. Ça veut dire, tu as fait telle erreur et tu t'assois. Tu dis, pourquoi j'ai fait ça? Quels ont été les ingrédients qui m'ont amené à me trouver dans une telle situation? Ça, c'est très important. Donc tu dois t'asseoir et analyser les choses. Parce que tu dois te dire, si je recommence d'une façon récurrente, vous savez, les erreurs récurrentes, c'est-à-dire qui reviennent cycliquement, ou les péchés récurrents, c'est très dangereux dans la vie d'un leader. Très dangereux. Ça peut nous amener à complètement ruiner notre destinée. Samson et Saül, c'était leur problème, entre autres. Je vous ai dit, une erreur ou un péché, tout le monde peut en commettre. Ça arrive à tout le monde. Ne dis jamais, je ferai un parcours sans faute. Ça n'existe pas. Tu es orgueilleux. Et quand tu commences à dire ça et à critiquer les autres qui sont tombés, ha, 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 ha. Moi, j'ai appris une chose, c'est à me taire. Ha, ha, ha. J'ai vu des gens, des serviteurs de Dieu, ne pas arrêter de dire, ah, celui-ci, là, blablabla, la moindre erreur, ha, 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 etc. Et quelques années plus tard, c'est eux qui étaient dans le trou et les autres qui jetaient des pierres. Faisons très attention. Tu n'es pas son maître. Son maître, c'est Jésus. Maintenant, il y a des relations avec lesquelles on doit prendre des distances. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre sujet. Mais tu ne dois pas juger l'autre. Mais tu dois te tenir à l'écart dans certains cas de certaines choses. On est bien d'accord. Numéro 3. Donc, ils apprennent rien de leurs erreurs. Pardon. Oui, excusez-moi. Reconnaître ses erreurs, avoir l'intelligence d'en tirer les leçons. Excusez-moi. Et la troisième chose, oui, c'est être assez fort pour corriger ses erreurs. Être assez fort pour corriger ses erreurs. Donc auprès de Dieu et auprès des hommes. Être assez fort pour corriger ses erreurs. Tu fais des erreurs, mais tu dois assumer tes responsabilités de tes erreurs et de ton péché. Les gens qui ne veulent jamais assumer leurs responsabilités, ce ne sont pas des leaders qui vont loin. Ils seront toujours rattrapés, quelque part. Alors, on va revenir au point 1, point 2, et on va faire le troisième point maintenant, d'accord ? Ils se reposent sur leurs propres forces, point 1. Ils n'apprennent rien de leurs erreurs, point 2. Troisième grand point, c'est qu'ils réagissent au lieu de répondre aux situations. Ils réagissent au lieu de répondre aux situations. Je vous rappelle qu'il y a une différence entre réagir et répondre. Jésus n'a jamais réagi, il a toujours répondu. Réagir, c'est l'impulsivité qu'il y a en toi. En fait, la réaction est toujours quelque chose de charnel. La réponse, c'est quelque chose que tu reçois de Dieu. C'est une réponse divine à un problème. Ne réagis pas aux situations, réponds aux situations. Quand on t'a humilié, dis ok, c'est très bien, mais il y a quelqu'un qui va m'élever, je le sais. Je vais mettre les mécanismes de l'élévation dans ma vie. L'élévation divine. Mais tu dois faire attention à cela. Très attention. Ne réagis pas. Samson réagissait aux situations. Les Philistins le provoquaient, il provoquait les Philistins. C'est pas ça que Dieu lui avait demandé. Dieu lui avait demandé d'apporter une solution divine pour que les Philistins arrêtent de venir envahir le territoire. Quatrième chose et dernière chose, ils sont facilement vaincus. Ils sont facilement vaincus. Et très souvent détruits d'ailleurs. C'est triste à dire. Ça les amène souvent à la destruction quand ils persévèrent là-dessus. Samson a été vaincu. Il a été vaincu par une douce femme très jolie qui lui donnait toutes ses satisfactions sexuelles. Sauf qu'elle lui a piqué son secret. Elle lui a piqué son secret. Et il lui a donné. Et il s'est retrouvé à la merci des ennemis. Lui qui devait vaincre tous les ennemis, il a été vaincu par ses ennemis. Le péché peut nous amener loin, nos erreurs peuvent nous amener loin. Maintenant, je vous dis, personne ne peut se targuer en disant « Je n'ai jamais fait aucune erreur, je n'en ferai jamais. » Nous en ferons tous, nous en avons tous fait et nous en ferons tous encore. Maintenant, la façon dont tu vas te comporter amènera la crédibilité dans ce que tu fais. Et ta crédibilité, c'est ce qui t'amènera à avoir et à continuer à avoir de l'influence. Si tu la perds, cette crédibilité, tu perdras ton leadership, tu perdras ton influence, et parfois même, tu iras jusqu'à perdre ta vie sur la terre. Tu resteras sauvé, mais ta destinée sera fichue en l'air à cause de toi.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.